One, two, ten, shake. It's okay. That's it, man.
Wait.
That's it, man.
Provoscopie, l'émission politique de divergence. Ce soir, nous vous convions à une rencontre hors du commun avec le président de la région, Georges Fraîche. Au micro, la bande des belettes assistée d'Adrien de Radio Pays des Hérauts, une émission spéciale, bricolée avec ce qu'on a pour en finir avec l'hypocrisie ambiante dans le Landerneau. Trêve de baliverne, nous allons ausculter l'homme en proie à son devenir, nous allons le disséquer, le faire parler, le démasquer, triturer ses mots M-O-T-S et ses mots M-A-U-X. Bref, nous allons commenter son dernier ouvrage sans oublier de disserter sur son œuvre. Autrement dit, en sa bonne compagnie, nous allons jouer aux historiens, s'il vous plaît. N'est-ce pas le rôle des historiens que de commenter les textes, source de tous les mots M-O-T-S, et de disserter à leur propos, source de tous les mots M-A-U-X. À la lecture de ce pamphlet, auquel il manque peut-être la forme, pour en être digne de Voltaire ou de Desproges, il en ressort trois thèmes qui traduisent plutôt bien l'homme qu'est Georges Fraîche, et un axe majeur qui explique au-delà des mots le géronte qu'il devient. L'homme ne se servirait-il pas pragmatiquement de lui pour mieux servir les autres ? Les thèmes qui transpirent de son livre, pas très catholique, du moins le croit-il, Trêve de baliverne, sont indiscutablement, foi d'historien que je suis, le reflet de ce qui a façonné sa personnalité. Georges Fraîche est en quelque sorte un triptyque. Il est un historien pragmatique, doublé d'un politique programmatique, parce qu'il n'est qu'un honnête homme authentique. Donc je vous propose trois débats. En quoi Georges Fraîche serait-il un historien atypique et pragmatique ? Pourquoi serait-il un politique démocrate plus que républicain, mais avant tout programmatique ? Et enfin, qui serait vraiment cet honnête homme authentique s'il s'avérait qu'il était humaniste ? De quoi alimenter votre réflexion avant que vous ne déposiez votre bulletin dans l'urne dimanche prochain en sortant du bistrot ou de la messe, c'est selon. Mais avant tout, demandons-nous avec Olivia Ruiz, mais qui c'est ce putain de Georges ?
Ce type qui est toujours là même quand personne le bipe.
Oh là là, oui, ses yeux de braise et sa petite fossette au menton. Je n'endors plus, j'en deviens niaise. Oui, je fonds en pamoison, je soupire son nom.
Et elle achète des tas de revues pour y découper ses photos. Sur tous nos murs, l'air détendu, on voit sourire le beau cabot.
Mais qu'est-ce qu'il a, ce Georges, à me faire sortir le cœur par la gorge.
Si encore c'était Clark Gable, autant en emporterait le vent. Mais je dois me farcir sa belle gueule de donjon toute la journée sur mon écran.
C'est quand même mieux que ton football, occupe-toi lit ou bien picole.
Mais si je bois, je réponds plus de moi, je suis pas plus ménage à trois.
Mais qu'est-ce qu'il a, ce Georges, le cœur par la gorge.
L'autre soir en rentrant du boulot, avec des lits, je passe mes pantoufles. Mais voilà qu'il rapplique aussitôt ma graisse à me laisser sans souffle.
Est-ce que mon Georges se permettrait...
Georges Fraîche, bien le bonsoir. Je crois que vous avez reconnu ce morceau, non ?
Oui, bien sûr, mais j'aime beaucoup cette chanson.
Et c'est la première fois où je l'ai entendue, j'ai cru que Olivia Ruiz l'avait composée spécialement pour vous, avant de m'apercevoir qu'elle avait été faite pour Georges Clooney.
Oui, elle a été faite pour Georges Clooney, mais c'est bien tombé, alors on l'a
ça le fait bien, ça le fait bien quand même. Hein.
Quelqu'un l'appelle quand même.
Moi j'aime bien le café aussi.
Bon, alors, si vous voulez bien, on va d'abord faire un petit débat avec l'historien. L'historien que vous êtes, c'est quand même votre carrière, premièrement et avant tout. Vous l'avez même écrit dans votre livre. Un politique, avant de faire de la politique, il faudrait qu'il ait un métier. Oui. Effectivement, vous avez eu un métier, vous l'avez pratiqué. Alors, j'aimerais bien qu'on commente ensemble les propos tirés de votre livre « Trêve de Banniverne ». Vous dites « Un historien, un bon historien, raconte de petites histoires pour faire comprendre la grande histoire avec une majuscule ». Vous faites la différence là, par rapport à l'allemand entre Geschichte et Historie, entre les deux histoires, la petite et la grande histoire ?
Bah, vous savez, l'histoire, il n'y a pas une histoire figée, il n'y a pas une histoire pour tout le monde, parce qu'en fait, regardez, quand vous commentez le temps présent, il y a autant d'avis que d'individus, autant d'opinions que de groupes. Il n'y a aucune raison qu'il y ait une vérité de l'histoire. D'ailleurs, on s'aperçoit qu'à l'heure actuelle, on est en train de refaire l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, de la Première, du XIXe siècle, de la Révolution française, même de la Révolution d'octobre. Il était un temps, dans ma jeunesse, où Lénine était un héros. Là, je veux mettre le statut de Lénine parmi d'autres, parmi Churchill, parmi Roosevelt. Mais ça devient presque scandaleux, alors que... alors que Lénine est un homme qui, entre 1917 et 1922, a changé la face du monde. Pour tout historien sérieux.
Donc, côté petite histoire, vous êtes plutôt dans l'idée des Italiens, la micro-histoire plutôt que la macro-histoire ?
Non, mais la micro-histoire est utile parce qu'elle illustre la macro. Vous ne pouvez pas faire une histoire, enfin, quand, moi, je vois, j'essayais de passionner mes étudiants et... Souvent, je racontais des petites histoires, mais ces histoires sont insérées dans la grande histoire. C'est une masse de petites histoires qui fait la grande histoire. Ça n'existe pas, la grande histoire. Il y a l'histoire.
C'est la somme de l'histoire des individus qui ferait la grande histoire.
C'est la somme de l'histoire des individus. Moi, par exemple, j'étais, si vous voulez, dans ce qu'on appelle la mouvance marxiste à la Sorbonne, quand j'ai fait ma thèse avec des hommes comme Labrousse, comme Meuvray, et dont j'ai fait une histoire des hommes, une histoire démographique, une histoire quantitative.
Une histoire des foules ou du peuple.
Des prix, des foules. Mais en même temps, je m'intéressais aussi à l'histoire des batailles. En fait, tous ces débats, c'est des débats de spécialistes. L'histoire, c'est un tout. Tout intervient dans l'histoire. Il y a l'histoire économique, il y a l'histoire sociale, il y a l'histoire des batailles, il y a l'histoire événementielle, il y a l'histoire des familles royales, il y a l'histoire des simples paysans. C'est tout ça qui fait l'histoire en général.
Et en même temps, l'universitaire que vous avez été, parce qu'un universitaire, à la différence d'un prof de lycée, il est maître complet de son discours. Et vous dites dans votre livre, le but de l'historien est de façonner les esprits en les marquant.
Parce que...
C'est de l'histoire politique.
Écoutez, tous les grands hommes politiques du XXe siècle ont été des historiens. Mitterrand, il était avocat, mais il était historien. De Gasperi était historien. Churchill était un grand historien. De Gaulle était passionné par l'histoire. Moi, je pense que l'histoire, c'est le fond. Vous avez deux types d'histoire. C'est Marc Bloch qui le disait très bien. Il disait, il y a les laboureurs de cartulaire. Ils sont utiles, c'est les gens qui déchiffrent, les gens... S'il n'y avait pas un homme à Toulouse qui avait traduit du latin au français les interrogatoires des gens de l'Inquisition après la croisade cathare au XIIIe siècle, jamais le roi Ladurie ne nous aurait donné ce chef-d'œuvre qu'est Montaillou, village occitan. Parce que le roi Ladurie n'a jamais traduit les textes des inquisiteurs. C'est parce que d'autres l'ont fait à sa place que lui a pu faire après, en mettant en avant ses qualités d'écrivain, il a pu mettre en avant un ouvrage qui est devenu un best-seller.
C'est ramené à l'humain.
Mais l'histoire, si vous voulez, moi, me passionne. Mais elle n'est qu'une base, c'est une formation. Et moi, l'histoire m'intéresse, ce que j'essayais de faire avec mes étudiants. J'avais des étudiants de droit. Donc je leur enseignais l'histoire du droit. C'est pas des historiens, les juristes, c'est des gens qui sont destinés à devenir avocats, à devenir profs, à devenir fonctionnaires. Bon, j'essayais à travers l'histoire de leur expliquer le monde. Parce que, et c'est d'ailleurs un des problèmes actuels, mais ça changera. Actuellement, la masse des enseignants est hostile à l'histoire et essaie de la raraifier, essaie de la diminuer dans les programmes. Et on essaie de former des gens qui, finalement, vont être décérébrés. Parce qu'un individu sans histoire, c'est comme quelqu'un qui a eu un accident et qui a perdu la mémoire dans l'accident et qui est sans mémoire. Moi, je ne suis pas passionné par le passé. Moi, il n'y a qu'une chose qui me passionne, c'est l'avenir. Mais si vous ne connaissez pas le passé, vous ne pouvez pas préparer l'avenir. Je crois. Je peux me tromper. C'est une hypothèse.
C'est un devoir ou un droit à la mémoire ?
On a un droit à la mémoire ou un devoir? Il y a des discussions en ce moment sur ce sujet.
Oh, la mémoire, c'est un devoir, moi, je crois. On parle de devoir de mémoire maintenant, mais vous savez, il faut entretenir en permanence. Regardez la Shoah, par exemple. Moi, ça m'a intéressé. Je lis tout ce qui paraît sur la Shoah. Mais les témoins de la Shoah sont en train de disparaître. Peu à peu, ils meurent. Eh bien, peu à peu, les gens ne savent bientôt, dans 20 ans, les jeunes sauront plus ce que c'est que la Shoah. Regardez les jeunes russes. Dans les sondages, ils privilégient Staline parce que ils ne savent pas ce que c'est que le goulag, ils n'en ont pas souffert, ils n'ont pas eu des familles avec des gens déportés au goulag, c'est-à-dire qui ont connu... Staline a été un homme horrible qui a tué 25 millions de personnes au goulag. Aujourd'hui, un jeune de 17-18 ans, qui est favorable à Poutine ou à Medvedev, celui-là, il ne voit qu'une chose, Staline, le vainqueur de Stalingrad. Et c'est vrai aussi, parce que pour le russe de base, la victoire de Stalingrad, c'est la victoire contre l'envahisseur germanique. Or, les Russes, toute leur histoire, c'est la lutte contre les envahisseurs. D'abord contre les Mongols, puis ensuite contre Napoléon, ensuite contre Hitler. Ils ont toujours repoussé les envahisseurs. Et donc, Staline... Moi, je regrette, parce que moi, personnellement, l'homme qui a fait la révolution d'octobre, le grand nom, c'est Lénine et ses compagnons. Mais Staline a joué son rôle, bien sûr, dans la révolution d'octobre.
Juste une question. Quelle est votre définition dans la même lignée de la démocratie, Georges Frêche ?
Ah, oh, la démocratie ! Écoutez, la démocratie, quand même, qu'on le veuille ou non, elle a été inventée quelque part il y a 25 siècles en Grèce. Et d'ailleurs, ça ressemble tout à fait, vous savez, la 5e République de De Gaulle... Et les 18 ans où Périclès a gouverné Athènes, ça se ressemble de façon extraordinaire. De Gaulle et Périclès étaient tous deux d'authentiques démocrates, c'est-à-dire qu'ils devaient leur pouvoir au suffrage universel. C'était pas le suffrage universel à l'époque de Périclès, mais c'était le vote de l'Assemblée plénière, de l'Agora. Mais quand même, Périclès se soumettait au vote tous les ans, parce qu'à l'époque, on était élu comme, on appelait ça stratège, on dirait aujourd'hui président de la République. Périclès, comme stratège, a été réélu 17 fois. Et en 17 fois, il a fait l'Athènes, il a marqué Athènes pour des siècles et des millénaires. C'est lui qui a fait le Parthénon. C'est lui qui a fait les grandes réformes démocratiques. Bon, bien, De Gaulle, c'était la même chose. C'était à la fois un homme... Mais De Gaulle, c'est un vrai démocrate. On est obligé de le reconnaître. Il a été élu.
Êtes-vous démocrate ?
Ah, moi, oui. Moi, je n'ai qu'un maître, le suffrage universel. Même pas les partis. Regardez ce que je suis en train de faire à l'heure actuelle. Vous savez, ça n'a l'air de rien. Si je réussis mon coup, je vais marquer l'histoire du XXIe siècle sur le plan politique. Parce que c'est la première fois qu'un homme s'affronte à tous les partis. Moi, je mène une liste en Languedoc-Roussillon, officiellement, contre le PC, contre le PS, contre les Verts, contre l'extrême-gauche, contre l'UMP, contre le Front National. C'est-à-dire contre tous les partis. Et si je gagne, eh bien, ça ne sera pas uniquement la victoire de Georges Frêche. C'est important, mais c'est peu de choses. Mais ça sera un changement politique dans le XXIe siècle. Ça veut dire qu'au XXIe siècle, on est arrivé à quelque chose que beaucoup de démocrates ont rêvé. C'est que le citoyen n'est plus manipulé, mais qu'il est capable, grâce à Internet, grâce à toutes les radios, sa propre opinion. Paraît une avancée démocratique extrêmement intéressante.
Ce qui veut dire que les partis, ce sont en quelque sorte, c'est l'empaquetage.
Mais les partis, moi, écoutez, les partis, je les aime. J'ai vécu 37 ans au Parti Socialiste, donc moi, je suis, d'une certaine façon, un homme de parti. Mais maintenant que j'en suis parti, je vais vous dire, un de ces jours, il y aura un congrès, Martine Aubry sautera, vous verrez. Et il y aura un socialiste à la tête du PS qui sera un ami à moi. Me proposera de me réintégrer. Mais je vais vous dire une chose. Mon parti, c'est les socialistes. J'y suis né, c'est là que j'ai mes amis. J'ai pas besoin d'avoir une carte pour être socialiste.
Non, au-delà de tout ça, moi, je voudrais qu'on revienne à votre livre. Et vous dites, entre autres, l'histoire a une géographie. Est-ce que Georges Frêche, tout d'un coup, se réveille brodélien ? Parce qu'une formation...
J'ai jamais eu... Alors, contrairement, moi, je suis issu de l'école de Brodel à la Sorbonne, mais j'ai jamais eu une telle admiration pour Brodel. D'abord, parce que la bande à Brodel, le Roland Duris, Furet, j'ai pas aimé leur parcours politique. Je parle pas leur parcours d'historien. Parce que, encore que le roi Ladurie, bon, mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui, on s'en moque, mais sa thèse sur les paysans du Languedoc, c'est une authentique, elle est authentiquement erronée. D'ailleurs, aujourd'hui, le roi Ladurie ne parle plus de sa thèse sur les paysans du Languedoc. Tout est faux. Tout est faux. Il s'est trompé dans l'utilisation des sources. Et c'est d'ailleurs pour ça que maintenant, aujourd'hui, il fait l'histoire des mentalités. Il a raison. Mais moi, ce que j'aime pas, surtout, c'est que ils ont été communistes. Furet était djanovien. C'était. Et puis après, ces gens-là, ils sont passés à droite. Ils ont été financés par la CIA. Ils sont devenus les hommes des Américains. Ils sont passés d'un extrême à l'autre. Et ce genre de personne, j'aime mieux un homme de droite, debout dans ses bottes, sincère, qui croit à ce qu'il défend, qu'un ex d'extrême gauche. Ce qui me peine souvent, c'est que quand l'extrême gauche change.
Vous pensez à
change,
qui, hein? Vous pensez à qui?
Oh, ben, à Madame Crimon-Valriguel, par exemple, également, qui a été aussi djanovienne au Parti communiste dans les années 46-47, et qui a fini comme éditorialiste au Figaro. C'est une. Ces gens-là, c'est. J'ai pour eux un immense mépris. Et Furet aussi. Parce que Furet, c'est un homme qui a détruit une certaine image de la Révolution française, qu'avaient donné de grands historiens comme Ollard, etc., qui avaient enseigné à la Sorbonne. Et. Il a vraiment, sur la Révolution, il a dit des choses...
Ah ben la Révolution atlantique, c'était quand même pas si idiot que ça.
Oui, non, mais ça c'est vrai, mais c'est pas Furet qui a inventé la Révolution atlantique, c'est l'ancien doyen de la Fac des Lettres de Toulouse, qui s'appelait Jacques Godechaud, et qui a publié il y a 30 ans un bouquin sur la Révolution atlantique. Mais ça c'est évident, ça on le sait, il n'y a pas besoin d'être bien grand clair pour savoir que les premiers qui ont développé les thèmes de la Révolution, c'est la Déclaration des droits de la Virginie en 1778.
Ah justement, voilà, on voit bien ce que l'historien Georges Frêche a pu apprendre au cours de sa carrière, et dans votre bouquin, vous nous dites entre autres, la colère est un instrument royal.
La colère ?
Oui. Ça, c'est écrit dans votre bouquin. La colère est un instrument royal. Et alors là, je me demande, Georges Frêche se croit-il détenteur de pouvoir régalien au point de singer les gestes du roi de France, puisque vous revendiquez cette colère?
Ah, mais moi, des fois, je me mets en colère, oui, une sainte colère, parce que il y a qu'une chose qui m'énerve, c'est l'imbécilité, la mauvaise foi, la malhonnêteté. Et le nombre de gens qui sont malhonnêtes en histoire, qui racontent n'importe quoi, est effrayant. Il faut. Moi, je suis pour une histoire, passionnée sur le fond, mais dépassionnée sur la forme. C'est-à-dire qu'il faut savoir quand même raconter les choses comme elles se sont passées et non pas comme on voudrait qu'elles se passent. Par exemple, on arrive même aujourd'hui. Je vous prenais l'exemple de Staline tout à l'heure. C'est très difficile de parler de Staline de façon rationnelle. Et de dire que Staline, c'est à la fois un boucher, un type ignoble, et en même temps, il était, je viens de terminer 4 ou 5 biographies de Staline, d'une intelligence exceptionnelle. Il parlait 7 ou 8 langues, et alors il faisait l'imbécile. Il faisait l'imbécile parce que pour parler au peuple, c'était quelqu'un qui connaissait par cœur le Nouveau Testament, l'Ancien Testament.
C'est votre côté stalinien, ça?
Ah non, moi, si j'ai été maoïste dans ma jeunesse, non, c'est parce que j'étais anti-stalinien. Quand j'étais à la Sorbonne, j'étais anti-stalinien, j'étais très proche des communistes, mais l'image de Staline me bloquait. Sinon, j'aurais adhéré au Parti communiste quand j'avais 20 ans. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que, alors, je suis allé côté chinois. Parce qu'au tout début, quand les Chinois ont commencé, se sont séparés de Staline, dans les années, enfin pas de Staline, il était déjà mort, mais de Brejnev, dans les années 1960, au début, ils ont tenté de jouer la carte anti-stalinienne, 7-8 mois. Et puis après, ils sont devenus encore plus staliniens que les Russes. Donc à ce moment-là, je suis parti, parce que moi, j'étais pas anti-stalinien côté russe, et pro-stalinien si j'étais chinois. Donc je suis resté dans les pro-chinois 9 mois, mais j'ai gardé une chose qui m'a suivi toute ma vie, une profonde amitié et estime pour l'intelligence du peuple chinois.
Alors revenons toujours sur votre bouquin. Vous dites qu'il est impératif d'être un impérator. Mais l'impérium, si ma mémoire est bonne, était décerné uniquement aux généraux vainqueurs. Quelle bataille Georges Frêche a-t-il gagné pour prétendre être un impérator?
Ah, mais moi, j'ai gagné beaucoup de batailles. Je dois rien au Parti Socialiste. Moi, je lui ai tout amené. J'ai été élu député en 73 pour la première fois, alors que le Parti Socialiste était encore dans les limbes, et que Mitterrand venait à peine de mettre la main dessus. Même pas. Ensuite, j'ai pris la mairie de Montpellier en 1977, alors que Mitterrand n'avait pas encore été élu au présidentiel. Et ensuite, je me suis battu pour aider Mitterrand à être élu au présidentiel. Donc moi, j'ai apporté beaucoup au Parti Socialiste et je ne regrette pas. Ça sera à refaire, je recommencerai. Et aujourd'hui, je vais m'engager pour les prochaines élections présidentielles. Ne parlons pas des régionales, ça n'a rien à voir. Il y a des choses, bien sûr, dans les deux. Mais actuellement, cette élection a un enjeu local. Et il y a un certain nombre de chefs parisiens qui l'utilisent pour leurs petits profits nationaux. Par exemple, Martine Aubry. Martine Aubry est une femme de qualité, intelligente, brillante.
Vous l'avez croisée, elle était aujourd'hui à Montpellier.
Non, je ne l'ai pas croisée, mais... Oh, ce qu'elle a dit, là, j'ai la dépêche de l'AFP, je vous le règle rapidement. Tout ce qu'elle a dit, je pourrais le dire. Hein. Elle dit, les femmes présentes, Madame Aubry a fait des propositions contre les discriminations sur les VG, accord total. Elle est revenue sur l'ignoble débat sur l'identité nationale, accord total. La France a dit, nous ne voulons pas qu'on nous oppose entre nous, nous voulons être unis pour plus d'égalité, pour moins d'injustice, tout à fait d'accord. Elle a également dit « Le racisme, comme l'antisémitisme, ça commence comme une méchante blague et ça finit très mal ». Totalement d'accord. Tout ce qu'a dit Martine Aubry à Montpellier ce matin, je pourrais le signer. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec elle. Mais revenons à Martine Aubry. Elle, dans cette affaire, elle utilise Hélène Mandrou comme un objet. Elle l'utilise, elle va la presser, puis quand elle l'aura essorée, elle va la jeter. Parce qu'elle sait à peine qui est Hélène Mandrou. Si c'est pas moi qui avais donné la mairie de Montpellier à Hélène Mandrou, personne ne la connaîtrait.
Elle vient de découvrir où était le Languedoc-Roussillon, d'ailleurs. Il y a pas
longtemps. Ah oui, elle a découvert. Alors, et d'ailleurs, vous savez, elle m'a offert des trucs. Et moi, je lui ai offert un atlas de France. Et j'ai mis un petit signé à la carte du Languedoc-Roussillon pour que Martine Aubry sache où est le Languedoc-Roussillon et repère où est Montpellier.
Alors, parlons des
gens. En quelque sorte, Georges Fache, ça a été un petit peu, comme on dit, le ciment du groupe.
Comment ?
Ça a été, vous avez peut-être le sentiment d'avoir été un peu le ciment du groupe, en quelque sorte.
De quel groupe ?
Je parle du Parti Socialiste.
Ah, le ciment. Le ciment,
non, parce que
c'est... À Languedoc.
Non. Vous connaissez l'expression, ce que je veux dire, c'est qu'on dit souvent que le con est le ciment du groupe. Et parfois, quelque part, on a un petit peu le sentiment que vous avez été, en quelque sorte, un petit peu instrumentalisé dans ce sens-là.
Moins instrumentalisé ?
Non.
Celui qui m'instrumentalise n'est pas né, hein. Moi, sur le fond, je suis anarchiste, ni Dieu ni maître.
Je suis
au PS parce que ça me plaît, mais parce qu'au PS, j'ai toujours fait ce que j'ai voulu. Mais si on m'avait mis des contraintes, j'en serais sorti beaucoup plus tôt.
Alors, cette volée de bois vert, de bois vert, là, de parisienne, là...
Mais même Martine Aubry, c'est très simple. Martine Aubry, elle s'apprête, elle a découvert brusquement qu'elle pourrait être candidate aux élections présidentielles. Pourquoi pas ? Il n'y a rien de scandaleux à ça. Elle peut très bien. Et donc, elle se prépare et elle essaie de prendre de vitesse Strauss-Kahn, Ségolène Royal, François Hollande et tout autre qui pourrait sortir du bois dans l'année qui vient. Bon, donc, en m'attaquant, elle sait très bien qu'elle va perdre des voix en Languedoc-Roussillon, mais elle s'en moque. Ce qui l'intéresse, c'est de se donner une bonne image dans les 21 voilà. autres régions. Donc elle utilise le Languedoc-Roussillon, comme on dit, comme un sparring partner. Elle utilise Madame Mandrou comme une éponge. Elle presse Madame Mandrou et après elle la jettera. Parce qu'elle s'en moque de Madame Mandrou, comme de l'an 40. D'ailleurs, vous avez vu, elle est venue ce matin 1h30. C'est le pire. Elle prend les gens d'ici pour des badauds qui viennent écouter la bonne parole venue de Paris. Parce qu'elle ne vient pas de Lille. À Lille, les Lillois, ils ont un homme qu'ils aiment. C'est Pierre Mauroy. Grand quinquin. Pierre Mauroy, il est aimé à Lille parce qu'il chante comme les Lillois, il chante le petit quinquin avec les Lillois et les Lillois aiment ça. Elle est importée, Martine Aubry, elle est tenue à bout de bras par Pierre Mauroy et elle s'ennuie à Lille et ce qu'elle veut c'est revenir à Paris, si possible à l'Élysée. Mais c'est pas fait parce que alors je voudrais quand même j'en profite pour le dire clairement, moi en tant que sympathisant socialiste, puisqu'ils peuvent désormais voter, ça a été... Moi, je l'avais demandé il y a 10 ans. On avait dit que c'était ridicule. Et puis finalement, Mme Aubry s'est ralliée à cette proposition il y a 3 mois. Donc désormais, le Parti Socialiste fera voter les sympathisants. Donc nous pourrons voter. Bon, en tout cas, moi, je voterai. Et donc nous allons nous soutenir... ça serait aujourd'hui, mais ça, c'est pas aujourd'hui. Je dirais médaille d'or Strauss-Kahn, médaille d'argent Ségolène Royal, médaille de bronze François Hollande. Mais ça peut très bien changer d'ordre dans 1 an et demi. Et une fois que nous aurons voté, moi, je ferai tout pour faire battre Martine Aubry. Mais je voudrais dire une chose. Moi, je n'ai jamais été mitterrandiste parce que mon père était résistant et que Mitterrand en avait trop fait à Vichy. Je ne vais pas vous raconter cette histoire. Pour le moment, elle fait partie de l'histoire. Mais je l'écrirai un jour. Et moi, je n'ai jamais été un ami de Mitterrand. Je ne l'ai jamais aimé. Mais j'ai toujours joué pour lui. Et quand Mitterrand a été élu en 81, j'ai fait sa campagne loyalement. Et j'ai fait toutes les campagnes de Mitterrand loyalement. Et Martine Aubry, je ferai tout pour qu'elle ne soit pas désignée à la présidence de la République. Mais si elle est désignée, je ferai sa campagne sans état d'âme. Parce que pour moi, l'intérêt des gens est supérieur aux histoires personnelles, qui n'ont qu'un intérêt superficiel.
Alors revenons à la société, aux gens. Vous écrivez dans votre livre que la société entière, y compris les médias, s'apparente à un banc de sardines sans queue ni tête. Et un peu plus loin, vous dites « le bon peuple rétablit lui-même la vérité ». Et encore plus loin, les gens détestent être pris pour des cons. Ils sont instruits, critiques, expérimentés. Alors je ne sais pas,
ce qui se passe à l'heure actuelle, et je crois qu'Internet y est pour beaucoup, et puis les radios libres comme vous, vous n'avez peut-être pas une audience extraordinaire, mais vous êtes des aires de liberté. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et aujourd'hui, moi, ce que je vois... Alors, pour le moment, c'est au niveau d'une région. Mais dans la région, les gens, maintenant, ils ne croient plus ce qu'on leur dit. Ils ne croient plus. Moi, je vois les débats sur Internet. Il y a ceux qui me défendent. Il y a ceux qui m'attaquent. Il y a un vrai débat démocratique. Et ça me plaît beaucoup. Ça, c'est bien. C'est ça, la démocratie. C'est quand les individus se font leur opinion eux-mêmes. Je vous l'ai dit au début de cette émission, et je le répète, c'est un truc extraordinaire d'intérêt national. Si je gagne cette élection régionale, je serai le premier qui aurait battu tous les partis de droite, de gauche, d'extrême gauche et d'extrême droite. Alors ça, c'est une nouveauté intéressante sur le plan politique qui me dépasse et qui dépasse ma modeste personne. Ça sera la première fois qu'on assistera en France à une opération, je peux dire, de démocratie directe, où un homme a réussi à se faire entendre d'une population par-delà les partis. Les partis ont été créés au XIXe siècle. Ils ont été longtemps le support indispensable de la démocratie. Mais maintenant, il est en train de se démontrer qu'on peut faire une démocratie directe et que le rêve de Périclès à l'Agora, on a dit après pendant des siècles, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'on ne peut pas rassembler tous les citoyens d'un pays de 65 millions d'habitants sur l'Agora comme on le faisait à Athènes du temps de Périclès où les 35 000 citoyens actifs pouvaient se rassembler pour certaines opérations importantes. Eh bien, maintenant, sur Internet, mais 20%, 30% des citoyens les plus engagés arrivent à se faire entendre. Et vous verrez, ce n'est qu'un début. À mon avis, moi je serai mort à ce moment-là, mais vers 2050, dans une quarantaine d'années, vraiment, on va revenir à la démocratie directe de l'époque de Périclès. C'est-à-dire que les gens n'iront pas chercher des ordres dans les partis politiques, mais ils se feront leur propre opinion à partir de l'information qu'ils puiseront sur Internet, sur les radios libres, sur la presse, sur la radio, etc. Ça me paraît très important, parce que quand on est démocrate, on ne peut pas ne pas saluer une telle évolution.
Pour terminer sur cette côté d'historien, vous nous dites dans votre bouquin que la classe politico-médiatique est composée essentiellement de tartuffes. Qui sont ces tartuffes ?
Est-ce que vous en faites partie d'abord ?
Moi non. Moi je suis pas tartuffe. Moi, ce qu'on me reproche surtout, c'est de. On me dit, il parle comme le peuple. Mais enfin, c'est extraordinaire. Je vais vous dire l'homme que j'admire le plus dans ma vie, c'est Jean Jaurès. Bon, Jaurès, quand il venait à Montpellier, par exemple, au début du siècle, 1905, 1904, il est venu à plusieurs reprises. Il parlait aux gens, aux bourgeois, dont certains étaient à gauche d'ailleurs, à Béziers, à Montpellier, en français. Parce que la langue des bourgeois, c'était le français. Mais quand il parlait aux ouvriers agricoles, qui d'ailleurs n'étaient pas tellement jaurésiens, mais plutôt guédistes, quand Jaurès parlait aux ouvriers agricoles, il parlait occitan. Pas pour montrer qu'il parlait occitan, mais parce que les ouvriers agricoles ne parlaient que l'occitan, dont il leur parlait dans la langue qu'ils comprenaient. Et donc c'est pour ça que Jaurès était populaire, parce que le peuple l'entendait. Le bourgeois qui parlait que le français n'était pas compris du peuple. Jaurès était compris du peuple. Les ouvriers agricoles le comprenaient. Et c'est pour ça que vous arrivez à comprendre comment cet homme qui a été assassiné en 1914, ça va bientôt faire 100 ans. Chaque fois qu'on pose une gerbe à Montpellier sur la place Jean Jaurès, il y a encore 150 à 200 personnes qui viennent. C'est fabuleux. Vous en connaissez beaucoup d'hommes politiques où il y a 200 personnes qui viennent lorsqu'on dépose une gerbe sur la plaque qui symbolise leur mort. Parce que Jaurès, il avait cette... Et on retient dans l'histoire les hommes qui ont eu un franc-parler. Clémenceau, par exemple. Clémenceau, il a été condamné. Alors lui, il a été condamné pour chèque sans provision dans sa jeunesse. Il a été condamné à de la prison avec sursis. Et il était honni par la classe politique, mais il parlait le langage du peuple. Et c'est lui qui, quelque part, a gagné la Première Guerre mondiale, qui a réunifié le peuple et qui a réussi à faire mener avec Pétain, puisqu'à l'époque, Pétain a joué un rôle positif. Ouais. Et oui, Pétain est le vainqueur de Verdun parce qu'il a économisé le sang de ses hommes. Ça nous a valu les malheurs après, parce que les gens aimaient Pétain dans les années 36-38, parce que Pétain avait été un grand chef pendant la Première Guerre mondiale, et que les gens l'aimaient.
Georges Frêche, pourquoi utiliser toujours des références historiques, même si là, aujourd'hui, on vous en pose, dans la plupart de vos discours, vous nous faites part de vos connaissances. Est-ce parfois pour noyer le poisson ?
On peut le dire, mais je crois pas. Je crois pas, parce que moi, si vous voulez... C'est vrai que je suis un des derniers hommes politiques qui a une vraie culture historique. La plupart n'ont pas de culture du tout. Moi, au PS...
Hein, c'est pour se mettre au-dessus
au
des PS,
autres. Quel est... Il y en a un qui a une vraie culture, c'est Peillon. Peillon a fait une thèse sur Jean Jaurès. Sur
les... Et pour terminer, vous dites dans votre bouquin encore, vive les expressions, vive l'expression. Est-ce que là, vous pompez pas un peu de vos entretiens, de vos entrevues avec Charles-Olivier Carbonneil parce que quelqu'un qui avait le sens et a toujours le sens des mots, le son des mots.
Ah, mais moi, vive les expressions, vive l'expression. Je ne me formatiserai parce qu'actuel, je dirais au contraire qu'il faut libérer la parole dans la classe politique française. Savez-vous que nous sommes le dernier parti. Enfin, je dis nous. Je suis plus directement socialiste, mais moi, je me considère comme socialiste. Le dernier parti qui objectivement est encore dirigé par des énarques. Martine Aubry est énarque, Hollande est énarque, Ségolène Royal est énarque, Strauss-Kahn... Ah, Strauss-Kahn ne l'est pas.
C'est peut-être pour ça. Fabius l'est.
Et Fabius l'est, bien sûr. Alors que, regardez, l'UMP n'est plus dirigé par des énarques. Sarkozy n'est pas énarque, et la plupart des dirigeants de l'UMP ne sont plus des énarques. C'est-à-dire on a désénarchisé l'UMP. Et l'EPS est encore pris par les énarques. Moi, une de mes forces, je le vois dans les sondages, c'est que j'ai gardé d'abord. Vous savez, quand j'ai pris Montpellier, il y avait 5 cantons, les 5 cantons étaient repères. Aujourd'hui, il y a 10 cantons, les 10 sont socialistes. C'est assez rare en France, ça. C'est assez rare, parce que le Parti socialiste a perdu le contact avec les masses. Ceux qui faisaient l'électorat traditionnel du Parti socialiste du temps de Mitterrand et avant, c'était les ouvriers, c'était les employés, c'était les fonctionnaires de catégorie B et C. C'était ça, l'électorat du Parti socialiste. Et puis les bobos. Alors le PS a gardé les bobos. Il garde... Les communautés qui cherchent à s'intégrer en France, et ça, c'est une bonne chose, que le PS cherche à intégrer les Français qui viennent du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, ou d'Afrique noire, ou d'Afrique de l'Ouest, de l'Est, c'est une bonne chose. Mais par contre, il a perdu son électorat ouvrier, fonctionnaire, employé. Et moi, je l'ai. Je le vois dans les sondages, je l'ai. D'où viennent les voix qui se portent sur Georges Frêche, c'est l'électorat populaire traditionnel que le PS a perdu.
Alors, on a fait une bonne partie sur Georges Frêche, l'historien, avant qu'on passe aux politiques et son programme. Ben, y a un petit morceau de Renaud qui devrait peut-être vous plaire. Il est pas de Renaud, mais il a été chanté par Renaud, Le Mauvais Garçon. Écoutez-en les paroles, vous verrez, ça vous ressemble quelque part.
Ah, c'est là qu'est la tronche pas catholique.
Eh oui.
Oui, c'est ça. Gagné.
Je le connais bien, Renaud. Je le connais depuis longtemps. Je mangeais avec lui à une brasserie de l'île Saint-Louis.
Les grands bourgeois qui nagent dans la joie, il faut avoir, pour être à leur goût, un grand faux col et un chapeau. Ça ne fait pas chic une casquette, ça donne un genre malhonnête. Et Et c'est pourquoi quand un bourgeois nous voit, il dit en nous montrant du doigt: c'est un mauvais garçon, il a des façons pas très catholiques. On a peur de lui quand on le rencontre la nuit. C'est un méchant petit gars qui fait du dégât, sitôt qu'il s'explique. Ça joue du poing de la tête et du chausson, un mauvais garçon. Toutes les belles dames pleines de perles et de diams, en nous croisant, ont des airs méprisants. Oui, mais demain, peut-être ce soir, dans nos musettes, elles viendront nous voir. Elles guincheront comme des filles, en s'enroulant dans nos quilles. Et nous lirons dans leurs yeux chavirés l'aveu qu'elles n'osent murmurer. C'est un mauvais garçon, il a des façons pas très catholiques. On a peur de lui quand on le rencontre la nuit. C'est un méchant petit gars qui fait du dégât, sitôt qu'il s'explique. Mais y a pas mieux pour donner le grand frisson qu'un mauvais garçon. C'est un mauvais garçon, il a des façons pas très catholiques. On a peur de lui quand on le rencontre la nuit. C'est un méchant petit gars qui fait du dégât, sitôt qu'il s'explique. Mais y'a pas mieux pour donner...
Bon, et bien après ce mauvais garçon qui a une tronche pas très catholique, nous sommes sur Divergence à Provoscopie, en débat avec Georges Frêche, notamment à propos de son dernier bouquin, Trêve de Baliverne. On va parler maintenant de Georges Frêche, le politique programmatique, celui qui fait du programme, et puis qui énonce le fait que de la théorie à la pratique, lui, il irait plutôt de la pratique à la théorie. Il nous dit dans son livre, je parle du local pour arriver au global, de la pratique à la théorie, du terrain au national, du dialogue aux idées, du bas vers le haut, en passant même par les alentours. Et avec un atelier, je ne sais pas si les Jospiniens c'est un atelier, Montpellier, puis le Languedoc. Alors, c'est quoi cette histoire-là de partir du local pour arriver au global ?
Je pourrais dire, c'est moi qui ai inventé tout ça, mais c'est Jaurès. Jaurès disait il faut aller vers l'idéal, mais en passant par le réel. Eh bien, moi, j'ai un idéal. Je suis un homme de gauche. Ma mère était de gauche. Moi, je suis de gauche. Je suis né à gauche. Je mourrai à gauche. Parce que, pour moi, la gauche, c'est le peuple. C'est le respect du peuple. C'est me battre pour donner au peuple un logement, un emploi, que les gens mangent à leur faim, qu'ils aient la dignité. C'est ça, le combat politique. Moi, j'aurais très bien pu être de droite. Mon père et ma mère étaient très pauvres. Ils ont fait des études et ils m'ont permis à moi de faire des études supérieures. Je le dis en riant, mais c'est vrai. J'ai plus de diplôme que tout le bureau du PS réuni. Mais je le dis pas, parce que chaque fois que j'ai sorti mes diplômes, j'ai perdu les élections. Par contre, quand je raconte des histoires...
Une fois sur deux au niveau des législatives.
Hein ?
Une fois sur deux au niveau des législatives.
Parce que c'était pas local.
J'ai fait 23 élections, j'en ai gagné 20 et j'en ai perdu 3. Ben, c'est un bon score. On peut pas gagner à tous les coups. D'ailleurs, ça vous ramène à une certaine humilité quand vous perdez, et c'est très bien.
Et alors, au niveau des référents, justement, là, depuis le début de l'émission, vous nous avez cité Jaurès copieusement, Lénine, on a parlé de Staline.
Blum.
Dans votre livre, vous nous parlez uniquement de Rabelais, Montaigne, Machiavel et Tocqueville. Donc c'est assez étonnant. Tocqueville n'est pas réputé pour être un penseur d'extrême-gauche, ou ni même de gauche.
Ah oui, mais Tocqueville est quand même un des plus grands penseurs du 19e siècle. C'est un homme qui a vu... Vous savez, d'une certaine façon, la révolution Internet, il ne pouvait pas la prévoir, parce qu'il ne pouvait pas l'imaginer. Mais quand vous lisez, parce que moi, j'ai relu récemment La démocratie en Amérique, le rapport qu'il a fait dans les années 1834, où il était parti faire une mission sur les prisons américaines. Eh bien, c'est le premier. Il n'était pas très favorable à la démocratie, parce que c'est un homme qui était d'une famille de hobereaux, de nobles, de Bretagne. C'était plutôt quelqu'un qui, par sa formation, faisait partie de l'élite. Mais son intelligence lui permettait de comprendre l'évolution des sociétés. Et il a très bien compris. Et il est allé très loin. Il a dit qu'un jour, même... il y aurait une adéquation directe entre la démocratie et chaque individu. Et c'est sûrement le penseur le plus... Il y a deux hommes, à mon avis, qui, sur le plan de la perspicacité, ont bien anticipé le XXe siècle dans le XIXe, c'est Tocqueville et Max Weber. C'est les deux plus grands.
Dans le programme politique, il faut être quelque part un peu, même beaucoup visionnaire, en quelque sorte.
Ah, les grands politiques sont des visionnaires. Regardez De Gaulle, hein. Moi, ma mère était socialiste, mon père était officier résistant et donc il était gaulliste. Il a été un des fondateurs du REPF à Toulouse en 1947. Mais De Gaulle, c'était un homme qui voyait l'avenir. C'est le premier qui a compris que le colonialisme était terminé, alors que par sa formation, par sa famille, il était du côté des colonies. Moi aussi, d'ailleurs. Mais moi, mon père, qui était un simple paysan, il aboutissait aux mêmes conclusions que De Gaulle. Mon père, il était officier, il avait fait la résistance, et en 49, il a quitté l'armée, parce qu'il m'a dit, il me l'a dit un jour, je voulais pas aller en Indochine. Je me suis pas battu pour chasser les Allemands de France, dont nous voulions plus, pour imposer les Français aux Vietnamiens qui veulent plus de nous. Et De Gaulle avait compris ça. Et un homme qui était proche de De Gaulle, Leclerc, voulait donner l'indépendance à l'Indochine dans les années 45-46, lors des discussions de Genève.
Il en est mort.
Entre Saint-Denis. Moi, je pense, je n'en fournirai pas la preuve, ça fait partie des grands mystères de notre histoire. Je pense que l'avion de Leclerc de Haute-Cloque a été saboté, mais on ne peut pas le prouver. C'est trop tard. Mais je pense qu'on l'a assassiné et qu'une espèce de fou, Thierry d'Argentlieu, a déclenché le bombardement d'iPhone qui nous a fait une guerre où on a eu beaucoup de morts, qui a duré... Et encore, c'est parce qu'on avait 6 millions de Vietnamiens catholiques qui nous ont aidés qu'on a réussi à tenir jusqu'à 54. Mais on a fini par perdre. Et grâce à Dieu. Et puis on a pris une déculottée à des Nguyen Phu. Moi, je l'ai rappelé une fois. J'ai eu tous les anciens qui me sont tombés sur le dos. Ça m'a fait marrer. Moi, je ne mettais pas en cause l'héroïsme des défenseurs de Nguyen Phu. Je mettais en cause la valeur du combat qu'ils menaient, qui était un combat de retardement. Les deux peuples qui n'ont pas compris que la décolonisation était indispensable, c'est les Portugais et les Français, qui n'ont rien compris. Les Anglais, ils ont compris. Ils se sont pas battus aux Indes. Aux Indes, laissez-moi faire sourire vos auditeurs une seconde, parce que c'est une histoire qui est peu connue. Ils ont envoyé à Gandhi pour négocier l'indépendance Lord Mountbatten, dont tout le monde sait que sa femme était la maîtresse de Nehru à Eton. Et tout le monde savait que Madame Mountbatten était la maîtresse de Nehru. On l'a envoyé aux Indes et ça s'est fait à trois. Nehru, Mountbatten et Gandhi, Nehru et puis la femme de Mountbatten. Et l'Inde est devenue indépendante sans un seul coup de feu. Idem.
Ils ont été tirés après.
Idem en Afrique du Sud. Où c'est, alors que les Bourgs, les Hollandais, étaient plutôt sur des positions franco-portugaises et étaient prêts à continuer l'apartheid en Afrique du Sud, c'est la tendance anglo-saxonne des Blancs d'Afrique du Sud qui a conseillé de négocier avec Mandela. Et ils ont réussi à donner l'indépendance à l'Afrique du Sud sans guerre exagérée. Donc, il y a même dans le colonialisme des gens intelligents. Les plus intelligents qui ont quitté leur colonie intelligemment, c'est les Hollandais, c'est les Anglais. Et puis, moi, j'aime bien les Français et les Portugais, mais on est obligé de dire que ça a été les plus bêtes. Ils n'ont rien compris à l'histoire.
Alors parlons maintenant d'un vieux bouquin que vous aviez fait, enfin, vieux bouquin, pas si vieux que ça, La Longue Marche, après le grand bond en avant. Moi, j'ai l'impression que Georges Frêche, dans son programme là pour 2010, il y aurait comme quatre modernisations. Il y a le vin, le tourisme, le terroir et la matière grise. Faire de la France, en fait, comme une espèce de fashion nation, à la façon de Stéphane Osmond, dans sa trilogie « Le Capital, le Manifeste et la Démocratie ». Vous êtes inspiré de lui
Non. Et... Mais je connais la référence. Écoutez, là, vous me parlez du programme. Alors moi, j'ai fait un programme pour le Languedoc-Roussillon, mais il va de soi que le Languedoc-Roussillon n'est pas isolé dans l'ensemble français. C'est une partie de la France. Et moi, j'ai jamais attaqué Paris. J'en ai contre certains Parisiens idiots, qui sont souvent d'ailleurs des provinciaux récents. Mais moi, les Parisiens, je les aime bien. J'ai vécu 14 ans à Paris.
C'est pas redondant, Parisien et idiot ?
Non. Beaucoup de Parisiens sont des gens très intelligents et très futés. Et je dirais que ceux qui... les vieilles lignées de Parisiens sont souvent des gens exceptionnellement intelligents, qui comprennent très bien ce qu'on appelle la province. Non, ce qu'il y a d'horrible à Paris, souvent, c'est les provinciaux récents qui montent à Paris et qui la ramènent, comme on dit.
C'est alors, un peu comme les nouveaux riches, quoi.
Oui, exactement, comme les nouveaux riches. Et alors ça, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que moi, j'essaie de montrer, par exemple, dans cette campagne, qu'on peut très bien développer le Languedoc-Roussillon. Si j'ai appelé ma liste tous pour le Languedoc-Roussillon, c'est pas par hasard. J'ai une expérience. Prenez un exemple. La ligne à grande vitesse Nîmes-Perpignan. J'ai essayé de la faire du temps de la gauche, du temps où Jospin était au pouvoir. Jospin m'a amusé, mais je n'ai rien tiré. Rien n'a bougé. Ensuite, il y a eu la droite. Il y a eu...
Et le ministre de Jospin, c'était Guesso, quand même.
Oui, mais Guesso n'a pas fait la ligne grande vitesse à l'époque où il était ministre des Transports, je le lui ai dit.
Il en avait-il réellement le pouvoir ?
Bon, alors j'y reviens. Donc aujourd'hui, nous n'avons obtenu la ligne à grande vitesse ni de la gauche ni de la droite. Donc moi, j'ai décidé d'intervenir et de mettre de l'argent dans la région. Blanc était contre, mais Blanc, sur le plan juridique, avait raison. La région n'a pas la compétence chemin de fer. Seulement, si c'est pas le droit qui mène la vie, c'est la vie qui commande le droit. Et moi, qui suis juriste, je ne suis pas impressionné par le droit. Parce que je sais que le droit évolue en fonction de l'évolution de la réalité politique.
Sur la ligne à grande vitesse, Georges Lefraîche, où passerait-elle, à savoir au-dessus ou en dessous de l'étang de Thau, avec quel futur gare ?
Ah, alors attendez.
Répondez
alors,
juste.
Oui. Oh, ben, pour le moment, on a commencé le contournement de Nîmes et de Montpellier, donc on va arriver jusqu'au sud de Montpellier, à Saint-Jean-de-Védas. Et après, dans les années 2013-2020, on fera Saint-Jean-de-Védas-Perpignan.
En passant par où ?
Alors, attendez, il y a un problème qui se pose en chemin. Alors, il y aura une gare à Perpignan, que la région a participé au financement, une gare à Montpellier. Et entre les deux, il y a un débat. Alors, le maire de Béziers veut faire la gare au nord de Béziers.
Pas loin de l'aéroport.
Pas loin d'Agde. Le président du conseil général du Lode, qui est un ami à moi, veut faire la gare au sud de Narbonne.
Et vous ?
Et moi, je veux la faire entre les deux, entre Narbonne et Béziers.
Écoutez le conseil.
Alors, je vais vous dire, parce que c'est simple. Moi, je me suis renseigné auprès de la SNCF. Ils m'ont dit, ou on fera une gare unique pour Béziers et Narbonne, ou on n'en fera pas. Auquel cas, on ira directement de Montpellier à Perpignan. Moi, ça me paraîtait regrettable. Donc, je pense qu'un jour, la raison finira par l'emporter. Et qu'à Salle d'Aude, où la région
malgré,
a acheté...
Malgré 2 millions d'histoires, quoi.
À Salle d'Aude, où la région a acheté 300 hectares pour faire une zone d'activité, c'est là que je vois arriver la branche du TGV Bordeaux-Toulouse-Narbonne qui joindra le TGV Atlantique Paris-Madrid par Hendaye et le TGV Méditerranée Paris-Madrid par Barcelone. Donc là, je pense que sur Salle d'Aude, on peut faire une gare qui sera à 12 km de Béziers et à 12 km de Narbonne. C'est le bon endroit. Je suis tenté de penser qu'à force, l'intelligence l'emportera.
Alors, au niveau du comment faire, vous nous parlez de travailler ensemble. Là, travailler ensemble, moi, je suis assez étonné. Vous voulez faire travailler le public avec le privé.
Oui.
C'est impossible.
Oui.
La recherche avec l'entreprise, le grand capital avec les PME, c'est vraiment de l'utopie. Ou alors, quels moyens la région pourrait-elle se donner pour le faire ?
C'est la réalité. Moi, si c'était jouable, je serais léniniste. Moi, Lénine, c'est un des hommes que j'ai le plus apprécié quand j'avais 20 ans. Et je n'ai pas abandonné cette admiration pour cet homme extraordinaire. Mais le communisme, moi, je suis le seul HEC qui est allé faire son stage d'entreprise en Union soviétique, à l'époque de Brejnev, dans les années... de Khrouchtchev. Je suis allé faire mon stage HEC à Simferopol, la capitale administrative de la Crimée, en 60-61. J'y suis resté 6 mois. Bon, et j'ai vu que le communisme, que d'ailleurs Lénine ou Staline n'ont pas inventé, c'est les Grecs qui ont inventé le communisme. Le communisme est aussi vieux, il a 25 siècles d'histoire. Platon se voulait communiste. Bon, le communisme, c'est une idée formidable, magnifique, mais c'est irréaliste. Exemple, les samedis communistes qu'avait inventé Lénine en 1920. On faisait travailler les gens le samedi, ils travaillaient gratuitement et l'argent servait pour développer des zones qui étaient mal développées en Union soviétique. Eh bien, il s'est passé quoi ?
Là,
il
vous
s'est
traitez passé... Raffarin de léniniste avec son indépendant.
Il s'est passé que les... Non, laissez-moi finir cet exemple pour montrer que le communisme ne peut pas marcher. Il s'est passé que... les samedis communistes, au bout d'un certain temps, il y avait 20% de gens qui travaillaient le samedi, les militants, ceux qui y croyaient, qui travaillaient gratuitement, et puis 80% qui allaient à la pêche et qui n'avaient rien à foutre du développement de l'Union soviétique. Donc les mecs qui ont travaillé, ils en ont eu marre. Donc résultat, en 1924, on a inventé le stakhanovisme et les primes à l'emploi, ce qui a été remettre en état l'éventail des salaires. Ceux qui travaillent plus gagneront plus. Voilà ce que Staline a dit en 1924. Et quelque part, c'est la vérité.
Et
moi, je vais vous dire, mon mémoire sur les conditions de travail de l'entreprise soviétique en 1961, j'avais dit, ça ne peut pas durer longtemps. Dans 5 ans, ça va s'effondrer. Mais vous voyez, j'avais été optimiste. Parce qu'il n'a pas fallu 5 ans pour que ça s'effondre. Il a fallu 30 ans. Il a fallu attendre 1990 pour qu'avec Gorbatchev, enfin, ça s'effondre. Parce que le communisme, c'est l'idée la plus belle du monde, la plus merveilleuse sur le plan théorique, mais c'est absolument impraticable parce que les hommes ne sont pas parfaits, c'est tout.
J'attends deux secondes, Loulou. Là. Moi, ce que je vais quand même vous dire, c'est que moi, j'ai mon père qui a vécu, qui a eu l'exploit d'être deux fois, je ne sais plus dans quel sens d'ailleurs, deux fois privatisé, deux fois nationalisé. Il travaillait dans les mines, à Pichiné. Et un jour, je lui ai posé la question à savoir ce que ça avait changé dans sa vie. Et il m'a répondu, moi j'ai tout le temps eu le même contremaître, le même ingénieur, les mêmes conditions de travail. Et pour moi, ça n'a rien changé. La seule chose qui avait changé, c'est en quelque sorte que l'argent, enfin les profits que faisait l'entreprise, soit ils allaient à des actionnaires privés, soit à des actionnaires publics. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, il a toujours vécu de la même façon, avec les mêmes rendements, les mêmes façons
oui,
de travailler.
Mais là, on parle d'autre chose. Vous parlez des nationalisations. Et les nationalisations, ce n'est pas le communisme.
C'est déjà
c'est
mettre...
autre chose.
C'est autre chose. Oui, mais c'est quand même mettre en commun un outil de production.
Oui, mais moi, je ne suis pas contre certaines nationalisations. Je prends un exemple. Dernièrement, on a privatisé la Poste. Alors, il y en a qui sont contents. Ils ont dit, on est revenu sur des conquêtes de la gauche. Non, la gauche, la Poste, ce n'est pas la gauche qui l'a créée. C'est Louis XI. Au XVe siècle. La Poste a été créée il y a 500 ans par un roi de France à la fin du Moyen-Âge. Et la Poste est un système qui marche bien et qui ne doit pas être étatique, qui doit pas être privatisé. Parce que la Poste, c'est un service public. Et si vous voulez avoir une poste au fin fond d'un village de Lozère ou au fin fond d'un village des Cévennes ou au fin fond d'un village de la Cerdagne, il faut que ce soit le service public. Moi, je le vois. Tenez, vous avez la contre-exemple actuellement. En Languedoc, j'ai passé un accord avec France Télécom, et nous sommes en train d'installer la DSL d'ici juin 2011.
Est-ce que ça ne peut pas remplacer dans
les 600 000 habitants du Languedoc-Roussillon qui ne l'ont pas? Pourquoi? Parce que France Télécom a câblé les 2 millions où c'est rentable, dont on a câblé les Nîmois, les Perpignanais, les Montpelliérains, les Sétois, etc. Et les 600 000 habitants des zones reculées, on les a pas câblés parce que ça rapporte pas. Et donc si le service public ne vient pas au secours, ce que j'ai fait, c'est en mettant de l'argent, des impôts, des gens, que je vais câbler l'ensemble du Languedoc-Roussillon dans les 18 mois qui viennent. Donc, c'est là que je pense... Mais ça, c'est pas le communisme. Ça, c'est le service public. Il y a des secteurs qui doivent être dans le domaine du service public. Moi, je pense que c'est nécessaire. Et ça vaut en plus pour la Poste. Il y a d'autres éléments qui sont nationalisés. Ça ne me gêne pas. Qui sont privatisés, ça ne me gêne pas.
Alors avant qu'on passe...
Le rôle de la gauche, c'est d'humaniser les privatisations. C'est-à-dire qu'actuellement, écoutez, le livre que vous avez vu là, pour moi, c'est un truc que j'ai fait en 8 jours. C'est un travail qui est fait pour les élections, essentiellement. Et c'est la préface d'un bouquin de 500 pages que je ferai l'an prochain, qui sera une contribution à un programme de la gauche pour le 21e siècle. C'est-à-dire qu'il faut... La gauche, elle a pratiquement réalisé tout son programme, sauf une partie essentielle. Il y a encore en France des gens qui vivent dans des conditions misérables. Il y a trop de pauvres, trop de gens qui ne mangent pas à leur faim, trop de gens qui n'ont pas de quoi se loger.
En 6 ans,
ça,
Georges
c'est une mission que la gauche n'a pas remplie au cours du XXe siècle.
Taux de chômage le plus élevé en France, oui. Grande précarité. En 6 ans de présidence, qu'avez-vous fait pour qu'on reste toujours dernier de la classe?
Écoutez, si nous sommes... si nous sommes derniers de la classe, ça c'est pas ma faute, c'est lié à des conditions historiques, c'est lié en particulier au fait, excusez-moi, mais qu'au XIXe siècle, quand la France a fait sa révolution industrielle, la région ne l'a pas fait.
Non, mais vous auriez pu inverser la tendance, entre-temps.
Oui, mais j'ai inversé la tendance. C'est-à-dire qu'en 2009...
Non, les chiffres disent l'inverse.
Non, mais laissez-moi vous répondre. En 2009, le taux de chômage était de 8,9 à Languedoc-Roussillon. Alors c'est vrai que c'est remonté à 13. Mais c'est remonté à 13 parce qu'il y a une crise internationale et que cette crise frappe la France et elle frappe le Languedoc-Roussillon qui n'est pas hors de la France. Donc le chômage est à nouveau remonté. Mais je vous donne quelques exemples. Par exemple, pour le bâtiment et les travaux publics, le taux d'emploi a reculé de 3% à Languedoc-Roussillon. Il a reculé de 25% à Midi-Pyrénées et de 17% en Provence-Côte d'Azur. Donc les efforts que nous avons faits ont payé. Mais bien sûr, ça se voit si on rentre dans le détail. Donc moi, je continue. Alors voilà le programme. Je vais quand même vous dire le programme que je développe pour tous, pour le Languedoc-Roussillon. Il y a quatre secteurs qu'il faut garder dans l'économie régionale. C'est la viticulture, avec tous les éléments périphériques, la trufficulture, l'oléiculture, l'élevage pour la Lozère et une partie de l'Aude, etc. Bon, ça c'est le premier. Le deuxième, c'est l'artisanat. Parce que les artisans créent un emploi sur deux en Languedoc-Roussillon. Donc il faut continuer à les soutenir pour développer des emplois. Le troisième secteur, c'est le bâtiment et les travaux publics. Et là, j'essaie de les booster avec des grands travaux. Le contournement de Nîmes-Montpellier pour la voie de chemin de fer, Montpellier-Perpignan, l'aqueduc Aquadomitia, les barrages collinaires de Lozère, l'installation de la DSL dans l'ensemble du Languedoc-Roussillon. Tout ça, c'est des grands travaux qui me permettent... Et nous allons multiplier par trois les crédits pour le logement social. Même si la région n'a pas la compétence logement social, il manque des logements dans cette région. Le taux de logement social est de 11. En France, la loi Guesso dit 20. On n'arrivera pas à 20, mais si j'arrivais à rejoindre les 17% qui sont la moyenne nationale aujourd'hui, ça serait un bel effort. Donc, troisième secteur, les grands travaux qui m'aident à booster le bâtiment et les travaux publics. Et le quatrième secteur, avec lequel j'espère remplacer une partie des emplois que nous perdrons dans l'agriculture. Parce que l'agriculture, ne faisons pas d'illusions. Même si je me bats pour permettre d'aller sur le marché mondial, avec les maisons du Languedoc-Roussillon, avec la participation aux foires internationales, nous sommes en train de pénétrer le marché chinois, le marché américain sur le plan viticole, nous allons perdre dans les 10 à 15 ans qui viennent un quart à un tiers des emplois viticoles. Donc l'endroit dans lequel j'espère les recaser, c'est le tourisme. Actuellement, le tourisme est très développé à Languedoc-Roussillon. Il ne faut pas exagérer, on ne parle pas de zéro. Le tourisme à Languedoc-Roussillon, ça représente le Maroc plus la Tunisie. Donc les gens ne se rendent pas compte, mais c'est beaucoup. Et ça a créé 32 000 emplois. Mais moi, je pense qu'on peut monter dans les 15 ans qui viennent. Ce n'est pas moi qui ferai tout. D'autres le feront après moi. On peut créer, je pense, 90 000 emplois, c'est-à-dire passer de 30 000 à 120 000 emplois dans le tourisme. C'est pour ça que je vais lancer une mission, Racine 2, qui va s'intéresser non seulement à la réhabilitation des stations touristiques du bord de mer Café Racine, le Cap d'Agde, la Grande Motte, Port-le-Cat, Port-Barcarès, etc., mais en même temps un tourisme qui va s'intéresser à l'arrière-pays, ce qui n'a pas été le cas de Racine 1. C'est-à-dire il faut essayer de développer la Lozère, les Cévennes, les Corbières, le Conflent, le Cap-Cyr, le Val-Espire, la Cerdagne, etc. Toutes ces zones, il faut s'en occuper, parce que ce sont des territoires de merveille. Alors voilà les quatre secteurs que je veux garder.
Et les entreprises que vous aidez, quand elles délocalisent, est-ce que vous allez leur demander de rembourser ?
Non mais écoutez, alors là vous me sortez un argument que sortent les gauchistes. Ils ont réussi à trouver une entreprise qu'on a aidée qui a délocalisé.
Ça c'est bien de gauche alors justement.
Ben oui, ben moi je veux bien lui demander de nous rembourser. Mais comme ils sont partis et qu'il n'y a plus personne ici, qui se sont tirés, ça fait partie des risques. Quand vous donnez de l'argent à des gens, et puis si les gens s'en vont à la... C'est comme quand vous louez un appartement et que les gens partent à la cloche de bois. Vous pouvez leur dire « remboursez-moi » s'ils sont partis et que vous ne les chopez pas.
Non, ça peut se on peut le mettre sur le contrat.
Oui, mais non, mais ça c'est très bien dans un programme pour l'extrême gauche. Mais ne comptez pas sur moi pour condamner l'extrême gauche, parce que moi l'extrême gauche j'aime bien. Et l'extrême-gauche, elle est nécessaire, parce qu'elle joue un rôle de sécurité. Elle joue un rôle. Elle dit ce qu'on peut faire de mal. Elle critique. Et cette critique est indispensable.
Alors avant qu'on passe...
Ce qui est gênant, c'est que d'être d'extrême-gauche à 20 ans, à 30 ans, c'est bien. À 50 ans, ça devient problématique.
Avant qu'on passe à l'avenir et puis à l'honnête homme authentique, eh ben je vous propose comme petit clin d'œil deux bruits de rue réalisés par des étudiants en classe préparatoire pour les écoles de journalisme vous allez voir sur les coucougnettes de Georges Frêche et puis sur autre chose.
Ah mais j'ai découvert les coucougnettes à Canal+.
Alors on va entendre ce qu'à Montpellier on en dit.
Elles existent depuis quand ?
Non, alors quand même, non.
Ah mais oui, celui-là, c'est pas sérieux, les coucougnettes.
De fraîche, de manière un peu humoristique à Canal+, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour vous ? Est-ce que vous vous sentez fier ou plutôt ridiculisé par rapport à cette histoire ?
Ni fier ni ridiculisé, j'ai trouvé ça simplement très drôle de la part du journaliste d'avoir rapporté ça. Ouais ! Il faut laisser tout dans son contexte.
Et vous connaissiez avant les coucougnettes ?
Non, pas celle-ci, non.
Non, mais... Vous ne connaissiez pas celle-ci ?
Pas celle de Pinto, non ?
Ça suffit. On ne va pas faire non plus un plat de coucougnettes. C'est sûr que ça fait jaser, ça fait parler.
On en fait trop avec Frêche qui dit que il faut arrêter, je trouve.
Voilà une femme intelligente.
On lui fait une pub incroyable à ce garçon. Martine Aubry lui fait une pub incroyable par la tête.
Voilà une femme intelligente. Et moi, je vous l'ai dit, je vais prendre Martine Aubry comme attachée de presse.
J'irai goûter un jour aussi, voilà.
On rêverait d'avoir une femme qui fasse une pub comme elle me fait.
Je préfère rester là. Je suis désolé, mais je préfère ne pas parler.
Il vaut mieux en rire. Il faut rester optimiste, à mon avis.
Vous voyez que les gens, ils sont moins imbéciles que les journalistes de Canal+.
Alors voilà, bon, c'était une petite impression.
Il faut toujours compter sur l'intelligence du public.
L'intelligence collective.
Bon, alors maintenant, on va passer à l'honnête homme authentique. L'honnête homme authentique qui nous parle de la grande misère, de la petite misère, un espèce de plaidoyer pour une autre politique de gauche. La grande misère aurait été éradiquée au 19e, 20e siècle, et la petite misère serait le mal-être, la régression, le déclassement. Alors, comment un président de région peut-il lutter contre ça ?
Je vais vous dire des choses. D'abord, une première chose scandaleuse, mais pour obliger les gens à réfléchir. C'est ce que Socrate appelait la maïeutique. Eh bien...
Ça fait un bon moment à Canal avec les autres journalistes qui s'est fait massacrer.
Je dis qu'un RMiste français est un privilégié par rapport à la moitié de la planète.
Ce qui est vrai.
C'est-à-dire, si vous prenez les pauvres qui bouffent des crabes sortis de la vase dans le nord-est brésilien, que vous prenez les pauvres d'Indonésie, des Philippines, de Manille, d'Insulinde, etc., on peut dire que nos pauvres à nous sont des bienheureux. Alors ceci étant, c'est un scandale, et c'est vrai, mais il faut quand même serrer les problèmes, parce que vous avez les pauvres, pour moi, c'est pas ceux qui vivent forcément dans la rue, etc. Les pauvres, c'est souvent des gens très dignes, qui cachent leur pauvreté, qui n'ont pas de quoi faire bouillir la marmite, qui ont des enfants à élever, qui ne sortent jamais le samedi, le dimanche, qui ne vont jamais au restaurant, qui ne vont jamais au cinéma, qui ont à peine de quoi vivre et qui, des fois, le 20 du mois, n'ont pas de quoi acheter de la viande et sont obligés de vivre avec quelques pommes de terre et autres. Ça, il y a une solution qui est très simple, que les sociodémocrates ont mis en place. Mais la social-démocratie est dépassée aujourd'hui. Mais elle a eu son temps, il y a 40 ans. Les Suédois l'ont lancée en 1932, en Suède. En Suède, l'écart entre les plus riches et les plus pauvres est de 1 à 40. En France, l'écart entre les plus riches et les plus pauvres, il est de 1 à 700. C'est-à-dire que vous avez en France des gens très riches, massivement riches, et puis vous avez des gens misérables.
Et qu'est-ce qu'on peut faire
ça,
contre
ça
concrètement ? Ça,
c'est l'évolution du néolibéralisme.
Moi, je vais vous le dire. Je vous donne quelques éléments de ce que je mettrai dans mon bouquin. D'abord, il faut revoir les impôts. Sarkozy, la première chose qu'il a fait quand il a été élu, c'est qu'il a supprimé les impôts des plus riches.
Et vous allez les augmenter ?
Ah, mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Et puis, il faut prévoir des mesures de dégradation de la dignité nationale pour les gens qui passent leur argent en Suisse. Quand je vois, par exemple, un chanteur comme Johnny Smith, même s'il est adoré de la jeunesse, hein, qui est un type qui gagne des sommes formidables, qui place tout son argent en Suisse, et que cet homme-là, on lui tresse des couronnes sur toutes les télés de France et de Navarre. C'est un scandale. Et pourtant,
Chanter pour les enfoirés.
Si je m'attaque à Johnny Smith, je sais ce que je fais, parce que que je me mets à dos l'opinion publique. Parce que l'opinion publique le soutient. Parce que c'est compliqué, l'opinion publique. Souvent, vous savez, les pauvres soutiennent ceux qui les rendent pauvres. C'est vieux comme l'histoire. Regardez, aux États-Unis, je ne le dis pas parce qu'on m'a dit « Oh, tu racistes !» C'est extraordinaire. Mais pendant la guerre de sécession, les Noirs qui étaient esclaves, ils ont continué à labourer les champs de leurs maîtres pendant que les maîtres se battaient contre les nordistes. Donc il ne faut pas croire que les gens, parce qu'ils sont pauvres, ils se soulèvent automatiquement. Les révolutions sont faites généralement par des gens aisés qui ont réussi à dépasser le primum vivere. C'est-à-dire que pour faire une révolution, il faut encore manger à sa faim et avoir le temps de s'occuper du combat des idées. Et Lénine, les révolutionnaires du parti bolchevique, c'était pas une troupe de misérables qui a pris le pouvoir à Moscou et à Leningrad en 1917. C'était des gens aisés. C'était des fonctionnaires. Le père de Lénine était juge. Lénine avait fait la fac de droit. Et il avait un métier. Donc, aujourd'hui, je reviens à mon propos. J'ai dit, ça, c'est la dernière chose importante, c'est l'écart des revenus. Et pour régler le problème de l'écart des revenus, il faut deux choses. Il faut, un, revoir le système fiscal, et deuxièmement, créer des emplois non délocalisables. Et ces emplois, on ne peut les créer qu'en s'appuyant sur la matière grise. Moi, j'en ai fait la démonstration que c'était jouable à Montpellier. J'ai été maire de Montpellier 27 ans. Je ne le suis plus depuis 6 ans. Eh bien, à Montpellier, j'ai contribué à créer 33 000 emplois. Et ces 33 000 emplois, ce sont des emplois non délocalisables. Et quand, par exemple, Dell Computer a voulu aller s'installer à Rabat, j'ai réagi en internationaliste. Les syndicats de Dell Computer sont venus me dire, monsieur le maire, il faut pas qu'ils aillent à Rabat. J'ai dit, comment ? Vous voulez empêcher les Marocains d'avoir 1000 emplois Dell à Rabat ? C'est 1000 familles que vous n'obligerez pas à venir habiter en France pour essayer d'avoir un emploi. Et donc, moi, je ne suis pas du tout opposé à ce que Dell crée des emplois à Rabat, au Maroc, ce qu'ils ont fait.
Et Agresco, c'est du durable, Agresco A7 ?
Ah, mais bien sûr, Agresco,
c'est... Qu'est-ce qu'il garantit que c'est du durable ?
Vous plaisantez, mais parce qu'Agresco, ils sont déjà... Agresco, c'est une boîte qui s'est créée en 1948, un an après la constitution de l'État d'Israël. Vous savez sur qui travaille Agresco ?
Qu'est-ce qui nous garantit que c'est durable ?
Non, mais attendez, je vais vous répondre. Mais d'abord, est-ce que vous savez de quel pays Agresco importe les fruits et légumes ?
Palestine.
Et puis ? Alors, l'Afrique du Sud et Cuba. Ça, vous ne le savez pas, mais je vous le dis. Agresco a passé des accords avec Castro il y a 30 ans et tous les fruits, toutes les oranges de Cuba sont exportées par Agresco. De la même façon, Mandela a passé des accords à l'époque où il était président de la République avec Israël. Bon, et je vais vous dire une chose simple. Les Palestiniens, moi je suis pour un État palestinien, donc vous ne me coincerez pas là-dessus. Mais les Palestiniens, vous savez qu'il y a à peu près 58% de chômage dans la bande de Gaza. C'est un des taux de chômage les plus forts du monde. Si, en plus, ils ne peuvent pas vendre les produits de leurs vergers, il n'y aura pas 58% de chômage en Palestine. Il y en aura 80%. Voilà le résultat. Vous aurez l'âme tranquille, mais les Palestiniens, eux, ils morfleront encore plus. Alors Agresco, c'est vrai, exporte les produits d'Israël et les produits de Palestine. Je vous fais remarquer quand même, un, qu'Agresco... exporte ça depuis 40 ans à Marseille. Et que jamais personne à Marseille n'a rien dit et n'a manifesté contre le fait qu'Agresco travaille sur Marseille. Deux, le conseil municipal de... Et là, mon ami Liberty, c'est le roi des faux culs. Parce que j'ai vu un dossier... Là.
Ancien député maire de
Sète. Oui, ancien député maire de Sète. Eh bien, Liberty, au conseil municipal de Sète, où il était à l'opposition, a voté en faveur de la venue d'Agresco. Tous ses amis, le conseil municipal de Sète a voté pour la venue d'Agresco sur le port de Sète à l'unanimité. la majorité de Comaignes et l'opposition de la liste Liberty a voté pour. Tous les syndicats de Sète ont voté en faveur de l'avenue d'Agresco. La CGT, FO, la CFDT, tous les syndicats de Sète ont voté en faveur d'Agresco. Donc ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on voit des gens protester contre qui ne protestaient pas à Marseille, pourquoi ils protestent à Sète. Agresco vient, et Agresco, moi je considère Israël comme un pays comme les autres. J'ai passé des accords avec le Maroc, et nous allons exporter les fruits et légumes marocains, simplement, là, c'est autre chose. J'ai pas voulu que ça concurrence les fruits et légumes catalans. Donc, nous avons demandé à l'INRA de travailler sur les zones de production et les temps de production pour qu'on importe les fruits et légumes marocains en janvier et février quand les Pyrénées-Orientales ne produisent pas des fruits et légumes. Parce que moi, je ne vais pas faire venir des fruits et légumes du Maroc pour faire la concurrence aux fruits et légumes catalans. Donc, j'ai pris soin de veiller à ce que ce soit dans la durée qu'on fasse ces importations. Donc on importera les oranges et les fruits et légumes qui viennent de Mauritanie, qui viennent du Maroc et qui viennent du Maghreb en général en décembre, janvier, février, début mars. Et on vendra les produits sur le marché international de Perpignan à partir de fin mars, à partir du début du printemps. Nous avons également passé des accords avec les Italiens. Donc déjà, les Italiens, les Marocains, les Israéliens vont venir sur cette. Ensuite, je compte passer des accords avec les Algériens, avec les Tunisiens, avec les Turcs, avec les Grecs, avec les Égyptiens, avec tous les pays de la Méditerranée. Cette, c'est un port. Et on ne fait pas marcher un port avec des oukases politiques. Enfin, alors sinon, il n'y a qu'à dire on veut faire disparaître l'État d'Israël. C'est ce que voulait à un moment la Syrie à Ahmadinejad, en Iran. Mais il faut remarquer aussi que ce sont les États qui ont accueilli les nazis en 1945. La plupart des nazis, Aloïs Brunner par exemple, a été accueilli
par
la Syrie.
Et juste pour conclure,
et il y est depuis 30 ans en sécurité.
Qu'est-ce qui garantit qu'Agresco ne prendra pas les subventions pour après partir dans un autre port ?
Mais Agresco n'a aucune subvention. Agresco, il n'y a aucune subvention du conseil régional pour faire venir Agresco. Agresco, pourquoi ? Je vais vous dire, c'est pour d'autres raisons qu'ils viennent. Bon, je vais vous le dire, il n'y a pas de mystère. Agresco, ils en avaient marre des grèves à répétition à Marseille. À Marseille, il y a des grèves tous les 15 jours. Donc, ils n'arrivaient plus à travailler. Donc, ils ont un accord avec Sète, avec les dockers, parce que les dockers ont voté pour la venue d'Agresco. Et il y a 200 dockers sur Sète. Ils ont voté à l'unanimité pour la venue d'Agresco. Et l'intérêt, c'est qu'ils se sont engagés pour un système de type social-démocrate. C'est-à-dire qu'il y aura des accords tous les 2 ans. Il y aura des accords entre les syndicats de dockers et les gens tous les 2 ans. Et tous les 2 ans, on reverra les prix. Ce sont des mesures que les Suédois ont mis en place en Suède en 1932 et qui ont assuré le succès de la social-démocratie suédoise depuis 70 ans. Bon, donc moi, c'est à peu près la même chose que je vais mettre en place ici. Mais moi, je défends les syndicats. Hein. Je défends les syndicats. Moi, je ne suis pas à la solde des patrons. Mais ce que je constate, c'est que quand je suis allé faire mon stage à l'Union soviétique, j'étais léniniste. Je suis allé voir comment le système fonctionne. Le communisme, ça n'a pas fonctionné en Russie. Et pourtant, Dieu merci que les Russes, c'est déjà intelligent. Ils ne sont pas plus bêtes que les autres. Si ça n'a pas marché, c'est parce que le communisme, c'est une trop haute idée. C'est une idée morale tellement belle qu'elle est inapplicable, parce que les hommes ne sont pas parfaits. Les hommes ne sont pas parfaits. Le communisme, ça impliquerait des hommes parfaits, altruistes, qui veulent travailler pour les autres. Mais il y en a quelques-uns qui sont comme ça, mais une infime minorité. Donc il faut... Moi, je pense que le système dit capitaliste, mais il faut l'amendier et l'amender par l'action de l'État. C'est pour ça que moi, je défends l'État. Et donc, ici, c'est la région qui jouera le rôle pour essayer d'organiser la liberté. Parce que ou bien on est dans le domaine du capitalisme sauvage... Moi, je suis pour un capitalisme à maudier.
Alors, une dernière question, Georges Frêche. Vous nous parlez de l'émergence d'une intelligence collective des peuples qui serait guidée par quelques têtes pensantes cooptées. Est-ce que vous feriez partie de ces têtes pensantes qui voudraient guider le peuple? Et vous nous dites qu'il faudrait presque créer un nouveau parti, le parti de l'utopie pragmatique, Alors, ce parti, vous le créez quand? Et le premier acte le 22 mars, le 22 mars, le premier acte que vous allez poser, est-ce que c'est d'éjecter Hélène Mandrou de la mairie de Montpellier?
Non, c'est une formulation pour essayer d'expliquer les choses. Mais pour le moment, vous savez, l'histoire ne se fait pas comme ça. On ne décrète pas un parti. Pour le moment, il faut faire avec les vieux partis en les modifiant. C'est pour ça que moi, le
vous
parti...
Vous allez faire de l'entrisme au PS?
Mais non, je ne vais pas faire de l'entrisme. Moi, je n'ai pas l'intention d'y rentrer. 37 ans de PS, ça me suffit. Aujourd'hui, je suis un homme libre. Je suis un homme entièrement libre. Mais je soutiens le Parti Socialiste. Je voterai en tant que sympathisant pour désigner le candidat aux élections présidentielles. Et ce que j'espère, c'est que... On ferait élire un président de la République, que ce soit Strauss-Kahn, soit Martine Aubry, soit Ségolène Royal, soit Hollande, soit un autre, parce que je crois que c'est possible. Je crois que c'est possible de battre Sarkozy. Et si nous ne faisons pas élire un socialiste à la place de Sarkozy, alors Villepin a ses chances, contrairement à ce qu'on croit. Villepin, où il va avoir ses chances, où il va disparaître dans les 6 mois qui viennent. C'est le destin qui le dira.
Juste avant de conclure, un mot sur votre santé, en toute transparence.
Alors, ma santé, si vous voulez... on m'a opéré de la colonne vertébrale et là, ça va très bien. Par contre, il y a un autre truc qui vient de mes 10 ans de rugby où je me suis bousillé pendant 10 ans. Mais je ne regrette pas parce que c'est les plus belles années de ma vie, les années de rugby. Mais j'ai fait du rugby entre 12 ans et 20 ans. 8 ans. 8 ans. Ah ouais. ça vous démolit. Mais quel bonheur. Quel bonheur. Pour être clair, j'ai la hanche bousillée, l'articulation de la hanche bousillée. C'est pour ça que je bois de plus en plus, que je traîne la patte. Et on va m'opérer à la mi-avril, dès après les élections. Alors l'opération dure 3 quarts d'heure. C'est un truc, on mettra une hanche en plastique. Et puis ensuite, j'ai 3 semaines de rééducation. Et ensuite, je ne traînerai plus la patte, je pourrai abandonner la canne. Parce que j'aime pas quand même... Mais cette canne, ça fait joli, ça me pose. Ça me donne l'impression d'être un homme posé. Je ne serai jamais un homme posé. Je serai toujours... Je suis un fou raisonnable. Un fou raisonnable.
Et je voulais vous dire, Johnny Hallyday en a deux. Hein. Hanches...
Comme tout le monde.
Non, mais des hanches...
Vous parliez des hanches.
Des hanches. Non, les deux, non. Les...
Oui. Mais vous ne parliez pas des coucougnettes, oui. Non, mais avec les coucougnettes, cette émission de Canal+, n'avait pas été inutile, parce que je ne savais pas ce que c'était, maintenant je le sais.
Je crois que
c'est Pento qui a dû.
Mais lui, il est content.
Pento, lui, il a dû pousser l'émission de Canal+.
Je crois qu'on arrive là au terme de cette émission spéciale avec le président de la région, avec Georges Frêche. Donc sur Divergence.
Attendez, je voulais dire un dernier mot. Tout à l'heure, j'ai parlé de mon programme pour la liste. Il faut quand même que je le dise. Donc j'ai dit les 4 secteurs que je voulais garder: la viticulture, l'artisanat, le bâtiment, les travaux publics et le tourisme. Et puis tout le reste, il faut faire ce que j'avais commencé à dire, c'est-à-dire des emplois non délocalisables en s'appuyant sur la matière grise et l'intelligence.
Et c'est pour ça que
je fais 18 zones d'activité avec des pépinières d'entreprises sur lesquelles nous accueillons des entreprises qui viennent un peu partout.
L'alphanétisation.
Ah, donc cette émission qui était pour la deuxième fois et pas pour la dernière, puisque lundi prochain c'est encore le cas, avec notre camarade rupestre du fin fond de l'Hérault, Adrien de Radio Pays d'Hérault. Adrien, merci de ta présence, de toute façon un lundi prochain. Et donc Divergent et Divergente, bah maintenant vous avez tout ce qu'il faut pour déposer votre bulletin dans l'urne quand vous sortirez dimanche ou du bistrot ou de la messe. Vous ferez comme bon vous semble. Et donc à lundi prochain pour un petit débriefing au-delà des élections, lundi prochain.
Votez comme vous voudrez, mais votez.
Eh oui.
Et maintenant on laisse la parole au loup, au renard et à la belette. À la semaine prochaine, lundi, 18h-20h, émission spéciale sur Divergence. Les radios,